Et vous savez, quand on prie, quand on dit Amen, on a des fois on a un peu de ce rituel-là, ça veut juste dire, ça veut dire quoi, Amen ? Ainsi soit-il, en fait, ça veut dire qu'on est d'accord à ce que la personne prie. Donc je vais juste faire cette prière. Si vous êtes d'accord que vous voulez entendre Dieu vous parler ce matin, et vous laisser surprendre peut-être par ce qu'il veut vous dire, ben, vous pouvez dire Amen avec moi. Seigneur, on te prie que tu nous donnes un cœur pour ta parole, et une parole pour notre cœur ce matin. Amen. Alors, c'est la rentrée. Moi, je suis aussi prof, alors je sais ce que c'est. Ça s'agite dans tous les sens. On commence une nouvelle saison. Et on est un peu tiraillé, si vous êtes comme moi, entre la joie de commencer quelque chose de nouveau, et puis de l'autre côté, on a le blues parce qu'on laisse l'été derrière nous. On laisse derrière nous, même si on travaillait encore parfois pendant l'été, c'est un peu différent. On recommence l'année, les activités de l'église redémarrent. Certaines activités qu'on avait laissées un peu en suspens pendant l'été redémarrent. Et on se retrouve avec de nouvelles activités, des nouveaux rythmes. Et c'est la rentrée. Parfois, ce n'est pas évident. On ne sait pas comment est-ce qu'on vit cette période-là de transition. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir prendre un nouveau départ, l'occasion de pouvoir prendre des bonnes habitudes, l'occasion de se laisser interpeller un peu sur son rythme de vie et de commencer d'une manière différente. Alors ma question ce matin, c'est comment passer du blues à l'enthousiasme ? Comment trouver un nouveau souffle dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous ? Je ne sais pas si vous, c'est votre désir, mais moi, en tout cas, c'est mon désir. J'ai envie d'utiliser cette période de septembre pour pouvoir me projeter dans l'année qui vient avec un nouveau dynamisme, un nouvel élan et quelque chose qui vient de Dieu aussi, qui va pouvoir m'inspirer, m'encourager, me pousser pendant cette année. Et ce que je veux vous partager ce matin, de manière assez simple, c'est 3 ingrédients essentiels dans une bonne préparation pour la rentrée. Ça vous va ? 3 ingrédients. Moi, je les connais, vous ne les connaissez pas encore. Et ce que je vous propose de faire, c'est juste de regarder un passage de la Bible où on trouve la vie de l'Église. L'Église elle-même est dans cette période de rentrée, cette période de transition, une période de nouveau, de renouveau, en fait même une période de démarrage. Et on se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Et on va voir le tout début de l'Église. Ici, le rideau s'est fermé avec l'évangile selon Luc. C'est le même auteur qui a écrit Luc et qui a écrit Actes des Apôtres. L'évangile a été annoncé. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et c'est comme si le rideau tombe. Et puis on attend qu'il se relève pour le deuxième acte. Vous savez, comme au cinéma ou au théâtre. Et voilà qu'on arrive dans ce nouvel acte, ce nouveau chapitre, cette nouvelle saison pour la vie de l'Église. Je vais juste vous lire un petit verset de Acte 1 avant qu'on démarre. Acte 1, verset 13, nous dit « Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, dans la vie de l'Église, c'est qu'on se retrouve dans ce passage, non ? On revient dans la maison, dans l'endroit où on se réunit d'ordinaire. Et la vie, en fait, est tellement ordinaire. La vie, parfois, est tellement ordinaire que quand un nouveau chapitre arrive, on ne le voit même pas. On peut passer à côté. On arrive en septembre et on recommence, tout simplement sans réfléchir, la routine de notre vie. Et je crois vraiment que ce matin, Dieu veut nous interpeller. Parce que dans ce contexte ordinaire, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit ces noms, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Pierre, Jean, Jacques, on voit, dans ma tête, je vois tout de suite les images, vous savez, des grands peintres avec les auréoles, et puis ça me semble être des gens complètement inaccessibles, tellement loin de mon quotidien, tellement différents de moi. Des gens parfaits, des gens qui, je ne sais pas, leur histoire est dans la Bible. Donc ça semble tellement loin de mon histoire. Et pourtant, dans l'ordinaire de ces gens, qui étaient certains pêcheurs, d'autres qui étaient collecteurs et bossaient chez les impôts, ils venaient de tout type de différents métiers. Et dans l'ordinaire de leur vie, dans leur quotidien, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que ce matin, vous êtes comme moi, vous avez envie de découvrir quels sont ces ingrédients dans la préparation de ce que Dieu allait faire. Et on va en voir 3 ce matin. Et le titre du message, c'est « Des gens ordinaires, un Dieu extraordinaire. Alors désolé si vous pensez que vous êtes extraordinaire ce matin, ce message n'est peut-être pas pour vous, mais si vous êtes comme moi, que vous pensez que vous êtes ordinaire, que tout semble banal un peu dans la vie, mais qu'on sait qu'on aspire à quelque chose de plus, ben je prie que ce message nous parle. Alors on va lire ensemble acte 1, on va suivre un peu le déroulement de ce premier chapitre, et on va voir ces trois ingrédients pour une bonne préparation de notre rentrée. Acte 1, versets 1 à 3. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. On va continuer en fait jusqu'au verset 12. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée du Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous entendez ce texte. Peut-être vous dire, purée, c'est vraiment compliqué comme texte, non ? Je ne sais pas, hein, ça semble compliqué. Et pourtant, on va voir que les enseignements sont vraiment simples. On se retrouve ici dans l'histoire qui a été écrite par Luc. Et on voit au tout début qu'il dit « cher Théophile ». Il écrit donc à ce Théophile, ce même Théophile à qui il a écrit l'évangile selon Luc. Si vous tournez, peut-être on peut le faire ensemble, dans Luc au chapitre 1, comme ça je vous prouve que je ne dis pas des bêtises. On nous parle de Luc. Luc, quand il écrit son évangile, c'est un peu particulier par rapport aux trois autres évangiles. Luc n'était pas un des apôtres qui a vécu les trois années auprès de Jésus. Mais il était là dans le temps de Jésus et il a entendu parler auprès des apôtres de toutes les histoires. Et ce qu'il a voulu faire pour son ami Théophile, certainement celui qui lui a commandé l'écriture de ce livre, c'était de lui expliquer en détail ce qui s'était passé. Voilà ce qui est dit dans Luc 1. « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, donc là c'est les apôtres, dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. » Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et voilà l'introduction de l'évangile de Luc. Luc, ici, il explique à Théophile, j'ai examiné, j'ai fait le travail d'enquêteur, j'ai été auprès des apôtres, ceux qui ont vu Jésus de ses propres yeux, j'ai entendu les histoires, j'ai entendu les récits, j'ai entendu tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Et voilà, soigneusement, je te l'ai écrit ici dans ce livre pour que tu puisses toi aussi les connaître. Et c'est extraordinaire parce que nous, on peut s'y pencher aujourd'hui, 2000 ans plus tard, grâce au travail minutieux de Luc pour Théophile, et on peut nous aussi s'y attarder. Et voilà que Luc ne s'arrête pas là. Le rideau s'est fermé, mais le rideau s'ouvre avec un nouveau récit, une nouvelle histoire. Et là, il le dit encore à Théophile, voilà ce qui s'est passé. Alors, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Je vais peut-être suivre avec le PowerPoint, s'il veut bien marcher, sinon. Oh, c'est pas grave. Tu peux le laisser, tiens, comme ça, ça fait une belle image. Ça passe, vas-y. Encore. Jusqu'à ce que tu vois quelque chose de souligné, tu peux y aller. Voilà, tu peux revenir en arrière. Comme ça, de l'autre côté. C'est l'ordinaire, hein, donc même dans le culte. Alors, ce que j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Luc ici commence en posant une simple question. Ce n'est pas la manière d'une question, mais il veut rappeler le fondement ici de ce nouveau départ, de cette nouvelle saison dans la vie de l'Église. C'est la personne de Jésus. Et moi, je vous le laisse en forme de question. Qui est Jésus pour toi? Quand tu entends même ce nom qui résonne dans tes oreilles, à quoi tu penses? Moi, en discutant avec les gens, et j'ai l'occasion, vous savez, vu que je suis jeune, et je dis aux gens que je suis pasteur, ça provoque toujours une réaction, en particulier dans le covoiturage. Et donc les gens, ils me disent « Mais comment t'es devenu pasteur ?» etc. Et quand on parle un peu de Jésus, je me rends compte qu'on a souvent une fausse ou une mauvaise image de qui il est. Parfois, les gens pensent que Jésus est un penseur. Vous savez, un peu comme Pierre et les autres sur le tableau, avec l'auréole, là. Et il semble vraiment distant de nous. Parfois, on pense que c'est un homme un peu efféminé. Il se laisse taper l'autre joue, aïe, aïe, au lieu de se défendre. On ne le dit pas, mais des fois, on le pense, non? Parfois, on pense que c'est un moralisateur. Il est venu sur Terre pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il est là pour juger, c'est ce que certaines personnes pensent. Parfois, on pense que c'est un imposteur. Certains, à l'époque de Jésus, pensaient ça. C'est un imposteur. Il vient ici pour ses propres gains. Peut-être que c'est une fable, une belle histoire pour les enfants, vous savez, qu'on lit à l'époque de Noël. Jésus dans la crèche, c'est tout joli. Peut-être c'est une personne inventée de toutes pièces pour avancer une domination politique. Combien de fois j'ai pas entendu ça? Et Paul, les croisades, t'en penses quoi? Pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'il en pensait, lui? Qui est Jésus? Quelle est l'image qu'on a de Jésus? Et qui est Jésus pour toi? C'est la première question ce matin, elle n'est pas compliquée. Un jour, un pasteur était dans une conférence de surfeurs en Californie. Vous savez, aux États-Unis, il y a des groupes parfois de chrétiens de tout. Il y a des groupes d'hommes politiques chrétiens. Et voilà qu'ils ont une conférence de surfeurs chrétiens. 300 surfeurs chrétiens qui se réunissent lors d'un week-end pour faire du surf et entendre parler de Jésus. Et le pasteur, il a commencé à parler un peu aux gens. Il s'intéresse à quelle est leur passion. Il leur pose la question devant tout le monde, c'est qui le plus grand surfeur? Et là, ça commence à parler dans tous les sens, presque ça crie. Ils sont là, Kelly Slater, bien sûr. Alors peut-être que vous penserez à un autre si vous êtes surfeur. Il dit, voilà. Il dit, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kelly Slater? Parce que moi, je ne le connais pas. Et là, ça hurle dans tous les sens. Il se lève, il crie, il a fait telle chose. En 1990, il a gagné le championnat du monde, il a regagné pendant 12 ans d'affilée, il a gagné telle compétition à Hawaï, il a fait telle vague, la plus grande du monde. Et c'est dur de les arrêter tellement, ils n'arrêtaient pas de crier. Excellent. Kelly Slater, ça les passionnait d'entendre parler du surf. Plus tard dans la journée, il a fait une petite expérience. Il leur a posé la question. Après tout, ils sont chrétiens, passionnés par Jésus. C'est qui Jésus? Je ne fais pas l'expérience ce matin. Gros silence. Un ou deux qui commencent. Il est mort à la croix. Ok. Oui, c'est vrai. Et elle est où la passion pour raconter ce qu'il a fait? C'est tout ce qu'on a à dire quand on va parler de qui est Jésus? Est-ce que ça ne nous interpelle pas, ça? Qui est Jésus pour nous? Qu'on soit chrétien ou pas? Si on n'est pas chrétien, est-ce qu'on se laisse juste filer sur la vague de tout ce que le monde dit? Jésus est comme ça, on n'a jamais été lire les récits de sa vie. On ne connaît même pas qui il est. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on est tellement blasé, tellement habitué d'entendre parler de lui que... on nous donne l'occasion, parle-moi de Jésus, on ne sait pas quoi dire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal, vous tapez sur la tête si vous ne savez pas quoi dire, mais c'est pour nous interpeller un peu. Vous n'auriez pas envie de le dire qu'une fois, il y avait une maman, veuve, qui a perdu son fils et qui marchait vers le cimetière, et ce Jésus, il est intervenu, il a ressuscité ce fils-là. Si on vous pose la question, vous n'avez pas envie de raconter ça? De raconter qu'un jour, une prostituée, rejetée par le monde, est venu pleurer à ses pieds et que lui, il lui a dit que quand on est beaucoup pardonné, on aime beaucoup. Que quand des hypocrites religieux, ceux qui croient qu'ils ont l'auréole, là, ils viennent vers lui, Jésus les jette. Il les jette tellement fort qu'il arrive dans le temple, il balance les tables, il jette des coups de fouet parce qu'il dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes hypocrites. C'est censé être une maison de prière, vous en faites une maison pour arnaquer les gens et leur prendre de l'argent. » Et bien entendu, Jésus qui donne volontairement sa vie à la croix, alors que nous, on est en train de cracher à son visage. Ça ne nous donne pas envie de parler de ce Jésus aux gens qui nous posent la question? qui est Jésus pour toi ? Un jour, j'ai eu l'occasion. Alors, je vous raconterai tout à l'heure. Je suis quand même assez timide de base. Maintenant, les gens ne me croient plus, mais c'est vrai. Parce que quand on parle devant, les gens ils pensent qu'on n'est pas timide. Donc. Mais ce n'est pas vrai. Et un jour, j'avais un assistant d'anglais dans mon collège et lycée qui s'appelait Jeff. Il venait du Canada. Et on a mangé ensemble un midi, on parle un peu voilà, de la foi, etc. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux continuer à parler avec cet ami de Jésus ? Je l'ai tout simplement invité à la maison. Et je lui ai dit, la prochaine fois qu'on va parler ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas un récit de la vie de Jésus ? On parle un peu de nos idées, de nos expériences, mais pourquoi pas regarder directement à ce qu'il dit ? Alors Jeff, il a l'air content, il dit, ouais, je n'ai jamais trop fait ça, mais c'est moi qui t'invite plutôt. Alors du coup, on se retrouve chez lui, on mange, et on ouvre l'évangile selon Jean, chapitre 2. On lit ensemble, et on se pose quelques questions simples. On se pose la question, qui est Jésus ? Qu'est-ce que j'apprends sur lui ? Qu'est-ce que j'apprends sur l'homme ? Et là, Jeff, il est choqué. Vous connaissez l'histoire de Jean, chapitre 2 ? Peut-être que vous ne la connaissez pas, ou vous l'avez entendue. C'est ce mariage où Jésus arrive. Jésus, invité au mariage, déjà premier choc pour Jeff, je ne sais pas. Il est invité, hein. Les gens voulaient qu'il vienne. Nous, on est dans une société où on veut pousser Jésus, on ne veut pas entendre parler. Les gens l'invitent à la fête. Il arrive à la fête, il n'y a plus de vin. On vient le chercher, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas là en train de dire, c'est cool, il n'y a plus de vin, comme ça vous ne ferez pas la fête. Il prend les jarres de purification des religieux, là où il y a l'eau bénite, comme dans les églises. Et il le change en vin. Et le vin, écoutez bien, c'est le meilleur vin. Tellement que celui qui organise la réception, il est choqué. Il se dit, mais c'est pas possible, le bon vin, on le donne au début, et après, on donne la piquette, tout ce qui n'est pas bon. Mais le bon vin, on ne le donne pas à la fin. Et Jésus qui vient montrer ici, qui nous apprend, mais et moi, je lui pose la question, Jeff, qu'est-ce que tu apprends sur l'homme ? Ben, nous, on a envie de célébrer la vie. C'est vrai ? On a tous cette aspiration-là. À moins que vous me dites, je ne sais pas, Paul, moi j'ai envie d'être triste toute ma vie, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. On a tous cette aspiration-là au bonheur. Et voilà que Jésus, quand il arrive dans la vie de ces personnes, ce qu'il désire, c'est montrer qu'il veut célébrer la vie. Il est le créateur de la vie. Il est venu sur terre pour nous donner la vraie vie. Et moi, je trouve ça beau. Un jour aussi, quand j'étais en Inde, j'étais en stage là-bas, j'avais quelques petits privilèges parce que j'étais occidental. Et un des privilèges, c'était d'avoir un chauffeur qui m'amenait au travail, surtout pour me protéger ma vie parce que la conduite là-bas, c'est tellement dangereux. Et il s'appelait Devender. Devender avait mon âge et c'était un peu particulier. On discutait ensemble et au bout de quelques mois, on s'est liés d'amitié. Et donc, je lui propose une Bible, un Nouveau Testament, dans sa langue. Et quelques jours après, lui qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, il revient me voir. Et puis il me dit, mais Paul, mais c'est extraordinaire cette histoire de Jésus-là. Et moi, ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, encore une fois, ouais, Jésus, et si on me demandait, qui est Jésus, qu'on me donne l'opportunité, 5 minutes devant mes amis, est-ce que je veux rester là ? Et puis quand on va me dire, hey, tu peux me parler de Zidane, ou je sais pas quoi, ouais, il a gagné la Coupe du Monde, 2 têtes dans les buts en 98. Alors ce que je vous propose, c'est de redécouvrir le vrai Jésus. C'est un encouragement simple ce matin. Regardez, tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, c'est dans l'évangile de Luc. Tout ce qu'il y a à faire, c'est quoi pour regarder sa vie ? On ouvre l'évangile de Luc, on le lit, et si on est déjà chrétien, on le relit. Et on le relit en ce début d'année pour que notre rentrée soit basée sur la personne et la parole de Jésus. Que Jésus soit au centre de nos actions, qu'on se rappelle pourquoi il est venu sur terre. Alors on continue pour regarder justement pourquoi il est venu sur terre. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Après avoir souffert, il nous fait référence ici à la mort de Jésus sur la croix. Quand il dit qu'il est vivant, c'est un mot plus simple pour dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez comment des fois on met des mots compliqués par rapport à la réalité, en fait, qu'il a souffert la mort et il est vivant encore aujourd'hui, tout comme nous. On est vivant aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir ? Peut-être vous vous posez aussi cette question-là. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir pour nous ? Ou alors, la question qu'on se pose et que les gens me posent parfois dans le covoiturage, c'est pourquoi est-ce que Jésus il est venu juger les gens ? Parce que là, Paul, Polo comme certains m'appellent, tu me parles des belles histoires, il change l'eau en vin, il aide la prostituée, il reprend les hypocrites. Et puis quand tu parles que Jésus, il a un droit de regard sur ma vie, là par contre ça m'intéresse moins. Là il est moins cool ton Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est mort sur cette croix? Vous savez que Jésus il est mort sur cette croix parce que le mal, les fautes qu'on commet, la noirceur qui est au fond de notre cœur, il la prend au sérieux et il sait que c'est grave. Il sait que c'est tellement grave que ça nous sépare de la vie de Dieu. Ça nous sépare de cette vie en abondance qu'il nous offre. Et donc il est mort sur la croix pour nous l'offrir. Il est mort sur la croix pour prendre tous nos péchés. Vous savez, parfois on dit que ce n'est pas juste. Vous connaissez peut-être des anecdotes à ce sujet, moi je vais vous en donner une. C'est une fausse histoire. Imaginez un homme, un jour, prend sa voiture. Parfois, c'est souvent le gars qui conduit. Et il arrive sur le périph', il est un peu en retard pour aller à l'église. Puis là, il y a la boîte, flash. Ah, mince. Mais imaginez que c'est un policier qui est à côté, donc il s'arrête, il se fait arrêter par les deux motards, et puis il négocie un peu. Il dit, allez-y, s'il vous plaît, j'étais prédicateur, j'allais prêcher ce matin la bonne parole à l'église, vous pouvez quand même me laisser aller. Et puis là, il fait grâce, il laisse partir l'automobiliste. Il arrive, il prêche à l'église, il retourne chez lui le soir, et pendant la nuit, il entend du bruit dans sa maison. Il se lève, il tombe nez à nez avec un cambrioleur. Il appelle la gendarmerie. Arrive le gendarme, le même du matin. Dommage. Et puis voilà qu'il se lance dans un plaidoyer passionné pour dire « Vous voyez, il a cambriolé ma maison, il faut l'arrêter. » Est-ce que le gendarme doit faire grâce à ce moment-là ? Attends, le PV c'est moins grave que de cambrioler une maison. On est d'accord qu'il y a des conséquences peut-être moins graves sur le coup. Mais il a violé la loi, il a été contre la loi, il a fait ce qui était mal. Et c'est marrant que son baromètre de justice, c'est lui-même qui va le fixer. Alors, faire un PV ça va, par contre cambrioler ça va pas. Dire un gros mot ça va, enfin ça c'est bête mais comme image, enfin, je ne sais pas, faire un mensonge quand les autres ne sont pas au courant, ça va. Par contre, se mettre en colère devant quelqu'un, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on est, nous, pour pouvoir placer ce baromètre-là? Je ne sais pas, hein, sur quelle grille de référentiel on la place. Jésus nous montre que le référentiel est tellement... Le baromètre, il penche plutôt du côté du péché à chaque fois qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous en sauver. Et j'espère que c'est la plus belle nouvelle qui peut nous toucher. Jésus nous offre un plein pardon pour notre passé. Il nous offre un plein pardon. On n'a pas besoin de se cacher devant Dieu de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes. On peut venir devant lui. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui, le sauveur du monde, qui est venu nous sauver et nous racheter. Qui est Jésus pour toi ? Et quelle est la place de sa parole dans ta vie ? À l'âge de 19 ans, j'avais entendu maintes et maintes fois l'évangile. Mon père était pasteur, imaginez. Le dimanche, on ne pouvait pas rater l'église. Alors l'évangile, on l'a entendu et entendu. Et c'est pourtant à l'âge de 19 ans où j'ai commencé à lire la Bible et j'étais percuté par ce que j'y ai lu. Et quand j'étais voir mes parents, c'est marrant, ils m'ont dit, j'ai mis quelques mois à leur raconter quand même mon changement de vie et tout que ça avait procuré dans ma vie. Ils étaient là, mais Paul, ça fait des années qu'on te dit ça. Et moi j'étais tout content, j'étais là, mais regardez, la Bible elle me parle. Ouais, ouais, c'est comme ça, ça se passe. C'est pour ça que les chrétiens ils sont ici le dimanche. C'est pour ça qu'ils lisent la Bible tous les jours. Parce que la Bible leur parle. Ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Il n'a pas terminé. C'est plus là, mais il a pu terminer. Il n'a pas terminé encore de nous enseigner. En Inde, j'ai rencontré un jeune gars. Il est parti dans un week-end avec des jeunes chrétiens. Et il est revenu. Mais le gars, pareil, transformé. Il était là, ouah, je lisais cette parabole. Et puis j'ai l'impression que c'était moi et que Dieu me parlait. Et puis à ce tour, c'était moi qui lui ai dit, bah, tu sais, c'est ce qu'on te dit aussi depuis un bout de temps. J'étais passé de l'autre côté. J'espère que toi, cette année, cette rentrée, tu vas aussi passer de l'autre côté. De pouvoir voir ce que la parole de Dieu te parle. D'ouvrir ce livre. Le livre, comme je dis aux covoitureurs, on critique le plus qu'on a lu le moins. On va dire Jésus est comme ceci, comme cela. Mais en fait, on n'a jamais plongé nos regards dans cette parole. Qui est Jésus pour moi ? Est-ce qu'en cette rentrée, ce premier ingrédient, vous inquiétez pas, les deux autres, on va aller plus vite, puisqu'ils en découlent, c'est de placer Jésus et sa parole au centre de ma vie. Et moi, j'ai envie d'utiliser cette période pour me dire, Seigneur, je ne veux pas être blasé par ta parole, je veux la lire chaque jour et te demander d'une manière fraîche, tu puisses te révéler à moi et je puisse comprendre qui tu es. Et quand mes amis vont me demander, c'est qui Jésus ? Eh bien, j'aurai des choses fraîches sur mon cœur pouvoir lui dire, ben Jésus, c'est celui qui cette semaine m'a donné la paix dans cette circonstance-là, c'est celui qui m'a montré la direction, c'est celui qui m'a rappelé que Dieu m'aime et qui m'a donné une espérance aussi pour ma vie. On continue ensemble. Une personne et sa parole, maintenant une promesse pour nous. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Dieu a fait une promesse. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot « promesse », c'est plutôt un mot positif. Ouais ? D'accord. Ça fait plaisir, comme Luc a dit, quand les gens y répondent. On se connaît moins, mais on peut quand même répondre. Oui, ça fait plaisir. Si je vous fais une promesse, surtout si vous savez que je tiens mes promesses, ça fait plaisir à entendre. Et ici, la promesse, elle est quelque chose de positif. Ce que le Père a promis. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et c'est notre promesse pour nous. Dans Jean, au chapitre 16, verset 7, Jésus a annoncé ceci. Il a annoncé, il vaut mieux que je m'en aille. Ben ça, c'était plutôt le blues de la rentrée pour les disciples. 3 ans avec le maître, 3 mois d'été, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous, la difficulté de la rentrée, et se remettre au travail. Là, c'était 3 ans, de manière intense, enseigné directement par Jésus. Je veux dire, ce n'était pas Paul qui se levait pour parler de la Bible, c'était Jésus qui se levait et qui parlait directement. Il parlait avec autorité. Il y a des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, qui touchaient les cœurs des personnes qui venaient tellement aux horizons différentes. Et voilà que Jésus meurt sur la croix et il retourne au ciel près du Père. Mais voilà qu'il dit, il vaut mieux que je m'en aille pour vous envoyer ce que le Père avait promis. Il avait promis déjà dans Ézéchiel, vous n'êtes pas obligé d'y tourner, mais j'y tourne pour vous, au chapitre 36, ça a été écrit des siècles auparavant. Il a dit au verset 25, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » La bonne nouvelle de cette promesse, c'est que Jésus veut nous donner une vie nouvelle. Vivre l'évangile, je crois que c'est votre thème de l'année. Sophie me disait, ah tiens, ça tombe bien. Et effectivement, si c'est le thème de l'année, j'imagine que vous le connaissez déjà, ce thème de l'évangile. Mais on a besoin de s'en souvenir à nouveau. Jésus veut nous donner une vie nouvelle. Et ici encore, ça surprend quand on parle de qui est Jésus. Jésus venait nous donner une vie nouvelle. Dans le covoiturage, l'autre jour, on était plusieurs covoitureurs et il y avait un jeune catholique à côté de moi et derrière, deux filles qui n'étaient pas trop intéressées par la foi. Mais en apprenant que j'étais pasteur, j'ai commencé à lancer quelques petits pics un peu, vous voyez, un peu ironiques, mais... Et voilà que cette jeune femme, Myriam, elle commence à me poser une question. Elle fait « Alors, qu'est-ce que tu peux pas faire ?» Genre, moi j'ai la liberté, elle veut nous raconter ses 6 mois passés en Bolivie, elle avait tout plaqué, son copain, la voiture, l'appartement, je m'en vais, je refais ma vie. Elle avait ouvert son appartement pour donner toutes ses affaires gratuitement à tout le monde. L'ordinateur et tout, venez vous servir, je m'en vais. J'ai la liberté, une vie nouvelle. Et voilà qu'avec entrain, elle me pose la question qui doit me piéger. Qu'est-ce que tu peux pas faire ? Je peux pas vivre. Et ben moi, avec l'entrain qu'elle m'a posé, j'ai pris le même entrain. Et je lui ai dit, j'ai pas envie de répondre à tes questions. Je vois pas pourquoi je répondrai à ta question. Mais peut-être même vous dites, attends, c'est l'occasion en or. Tu peux lui parler de Jésus, tu réponds pas. Je lui ai dit, je vois pas pourquoi je répondrai à ta question. Tu me demandes ce que je peux pas faire. Et pourquoi je ne te dirais pas ce que je peux faire ? C'est vrai après tout. Moi, ma vie chrétienne, elle n'est pas caractérisée par une liste de règles que je ne peux pas, fais pas ci, fais pas ça. Et toute la journée, je me pose la question, est-ce que j'ai ça, j'ai le droit ou j'ai pas le droit ? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du bien et du mal. Hein. Mais ce n'est pas ça qui dirige ma vie. Ce qui dirige ma vie, c'est l'aspiration à vivre selon Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu veut créer le vouloir et le faire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le vouloir faire. Faire des choses parce qu'on le veut. Jésus, il n'est pas venu pour nous donner une liste de lois à suivre. Ça a déjà été donné dans l'Ancien Testament. Et ça n'a pas marché. Ça a même été donné pour montrer et prouver que ça ne marchera pas. Parce qu'on a besoin, ce n'est pas des règles à suivre, on ne peut pas le faire. En vrai, on va nous dire « aime ton prochain » en vrai, si on est honnête. On est égoïste. C'est vrai, non ? Moi, je ne sais pas pour vous. Quand je dis la Bible, elle dit que vous êtes tous égoïstes. Mais enfin, elle m'inclut dedans. On est tous égoïstes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, sérieusement. Non, aimer un peu, oui. Mais comme nous-mêmes, ce que j'ai besoin, c'est d'un cœur nouveau, une aspiration nouvelle à faire le bien. Et c'est ce que Jésus a donné. C'est ce qu'il a dit, quand dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je ne serai plus juste à vous enseigner comme ça. Il vaut mieux que je m'en aille pour que je vienne dans vos cœurs, à chacun d'entre vous. Parce qu'il peut être présent ici, Jésus, dans ton cœur, ici à Toulouse. Mais il peut être présent à Nantes, où j'habite, à Paris. Il peut être présent partout où on habite. Il peut être présent dans nos vies au quotidien, quand je me lève le matin, que je suis fatigué, que je veux aller au travail. Jésus est là. Il est présent dans ma vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors vous vous dites, mais alors tu lui as dit quoi quand même, cette fille-là ? Tu lui as dit, qu'est-ce que tu peux faire ? Alors je lui ai dit, tu sais, moi je peux connaître Dieu personnellement. Je peux recevoir l'amour de Dieu dans ma vie et sa paix profonde au quotidien. Je peux entendre Dieu me parler. Et là, elle m'arrête et fait, t'es sérieux là ? J'entends Dieu. J'ai fait, ouais, j'entends pas des voix qui viennent me parler. Mais ce que Jésus a fait, commencé à faire, enseigner, on l'a là dans la Bible. Donc je la lis au quotidien. Et ce n'est pas un livre normal comme les autres, c'est une parole qui touche profondément mon cœur. Je lui ai dit, tu sais, je peux m'adresser à Dieu dans la prière, je peux lui parler. Voilà les choses que je peux faire. Et je trouve que c'est la promesse que Dieu a pour nous aujourd'hui. Il a même dit, dans Romains, l'apôtre Paul nous dit, Romains au chapitre 8, nous dit, il nous a donné un esprit, pas pour qu'on soit encore dans la crainte de fais pas ci, fais pas ça, dans la crainte d'un jugement. L'amour parfait bannit la crainte. Quand on connaît l'amour parfait de Dieu, il bannit la crainte du jugement. On n'a plus à avoir peur d'être jugé pour nos péchés. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris la condamnation publiquement devant tous de tous nos péchés. Ils ont été pris à la croix. Ça a été payé pour nous. On a été rachetés par son sang si on a accepté qu'il a payé pour nous. Si on veut payer par nous-mêmes, ça c'est notre problème. Malheureusement, Dieu nous laisse le choix. Mais si on a accepté qu'il paye pour nous, on n'a plus à être dans la crainte. Et on reçoit son esprit dans nos vies, qui est la promesse. Et il nous parle de l'esprit d'adoption qui crie dans nos cœurs. Abba, Père. Est-ce que c'est une promesse pour vous ? J'espère, hein ? L'apôtre Pierre, deux passages plus loin, il nous dit que c'est une promesse pour nous et pour nos enfants. Et il parlait des générations à venir, on fait partie de ces générations-là. J'espère qu'en cette rentrée, on prend conscience de ces différents ingrédients dans notre vie pour une bonne préparation, de nos cœurs et dans notre vie d'église aussi. Qu'on veut placer nos cœurs centrés sur Jésus et sa parole. Vraiment centrés sur lui. Pas centrés sur une liste de choses qu'on a pris l'habitude de faire, des choses banal, mais que dans notre vie ordinaire, on puisse dire « Jésus, je veux que tu sois au centre de ma vie ». Et aussi cette promesse que Dieu a pour nous, que son esprit va venir changer nos cœurs. Alors certains, parfois, vous savez, ils sont tiraillés entre les deux. Ils disent d'un côté, il y a la parole de Dieu, et de l'autre, il y a ce que l'Esprit Saint fait dans ma vie. Mais vous savez que ces deux choses-là sont réconciliées. La preuve, l'évangéliste Luc a écrit les deux livres. Il a écrit l'évangile qui nous parle de Jésus et sa parole. Et il nous parle ici des actes, qu'on parle souvent des actes du Saint-Esprit ou des actes des apôtres, qui nous parlent de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et donc, il réconcilie les deux. On n'a pas besoin d'être un chrétien qui est juste théologien. Vous savez, il connaît tous les grands mots difficiles sur la Bible, et c'est bien parfois de les connaître, hein. Ce n'est pas forcément mal. Mais d'être tellement à cheval, mais dans son cœur, jamais il laisse l'amour de Dieu rafraîchir son cœur et avoir une simplicité pour venir dans la louange devant Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et de l'autre côté, parfois, on peut avoir aussi des chrétiens qui disent « Oui, c'est que le ressentir, vous savez. Il faut toujours ressentir l'amour de Dieu. Et le jour où je ne le ressens plus, je suis comme un ballon de baudruche, je suis tout dégonflé, et puis ma vie spirituelle, elle ne ressent plus rien. Ben, » ce n'est pas non plus cet extrême-là. Jésus nous dit qu'on a accès aux deux. Les jours où je ne suis pas bien parce que les émotions me montrent « Voilà, je suis fatigué, c'est normal, vous êtes peut-être fatigué à m'entendre. » Eh bien, c'est normal que vous ne ressentez peut-être pas l'amour de Dieu dans vos vies. Mais si vous lisez la parole et que vous rappelez que Jésus est mort pour vous à la croix et que c'est la preuve de l'amour de Dieu pour vous, vous pouvez vous y accrocher dans ces moments-là. Et puis il y a d'autres moments où vous allez lire justement la vérité de la parole, que Jésus est mort sur la croix pour vous, ça va vous encourager et votre cœur va être renouvelé d'une manière nouvelle. Et même vous allez être surpris de l'amour qui va être déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Ok, une promesse pour nous, on va terminer. avec le dernier ingrédient, une puissance pour témoigner. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Donc c'est bien en fait, hein, parce que là Jésus fait comme moi, moi j'ai plutôt fait comme lui dans le covoiturage, il pose une question et il n'a pas envie d'y répondre. C'est quand est-ce que Jésus tu vas revenir pour nous libérer du pouvoir politique des Romains ? Mauvaise question. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà en gros ce que vous devez savoir, vous posez la mauvaise question. Ce n'est pas une question de savoir quand Jésus va venir pour délivrer du pouvoir politique. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans leur ville où ils se tiennent d'ordinaire, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Jésus leur dit qu'il veut qu'ils deviennent leurs témoins. Est-ce que vous vous rendez compte que quand le Saint-Esprit agit dans la vie du chrétien, la première chose qu'il fait, c'est de nous recentrer sur la personne de Jésus. Quand vous trouverez des personnes qui vous parleront juste des miracles, des choses extraordinaires que Dieu fait, et vous n'entendez jamais le mot Jésus, jamais le mot de la croix, jamais le mot qu'il est mort pour nous et pour nos péchés sur la croix, ces personnes-là s'égarent loin de Jésus. Le Saint-Esprit, l'œuvre première qu'il fait, il nous rappelle ce que Jésus a commencé à faire et enseigner. Et quand vous voyez qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 2, Pierre se lève et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle de Jésus. C'est la première chose qu'il fait. Et ici, j'aimerais nous encourager. Peut-être vous êtes un peu timide, vous avez peur de partager l'évangile, mais peut-être en cette nouvelle saison, ça va être un nouveau départ. Moi, j'ai vécu ce nouveau départ aussi dans ma vie. Les premières fois où j'ai témoigné à des potes de Jésus, c'était difficile. J'avais les mains moites, j'étais là, allez, je veux dire que je suis chrétien. Et genre, je lançais un truc genre, t'as fait quoi ce week-end ? J'étais à l'église. Oula ! Eh ben, c'est pas grave, c'était un premier pas de foi. Et puis au fur et à mesure des années, Jésus m'a aidé à pouvoir parler de lui et maintenant raconter l'histoire et pouvoir dire à Myriam dans le covoiturage, « Non, je vais te dire ce que je peux faire. » Je ne pouvais peut-être pas faire ça il y a quelques années. Alors ne vous inquiétez pas. Pierre, vous savez, celui qui a renié Jésus, il a renié devant une servante près du feu. « C'est qui Jésus ? Tu as le même accent que lui, tu viens de Galilée. »« Non, non, je ne vois pas qui t'es, je ne vois pas qui c'est. » Et on le retrouve un peu plus tard. Quand il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il dit « Comment ne pourrions-nous pas parler de celui de tout ce qu'on a vu et entendu. » Et il est prêt à se faire enchaîner et mettre en prison pour l'évangile. Oh, quel changement ! Quelle force de caractère, non ? C'est le même gars qui a renié Jésus juste avant. Quelle puissance du Saint-Esprit ! Est-ce que tu crois dans cette puissance-là, pour cette année en particulier, qui peut te donner l'audace d'aller témoigner de la personne de Jésus ? Moi, en tout cas, j'ai envie de m'en rappeler. Des gens ordinaires, témoins d'un Dieu extraordinaire. Est-ce qu'en cette période de rentrée, on a envie d'être basé sur la personne et la parole de Christ ? D'y revenir et de dire « Seigneur, cette année, j'ai envie de me laisser impacter à nouveau par les vérités que j'y trouve. » Et viens rafraîchir mon cœur, que quand on parle de Jésus, ça me parle tout à nouveau. Est-ce que la promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse que je regarde avec joie et je dis « Seigneur, quelle joie de pouvoir aussi ressentir ton amour dans ma vie. Quelle joie de pouvoir entendre ta voix qui me guide, qui me montre parfois, qui me titille juste ma conscience pour montrer « ça c'est bien, ça c'est pas bien, change la vie ». Change cette manière-là de vivre dans ta vie, qui me repousse à la repentance, qui me repousse à la croix, qui me repousse à me rappeler que Jésus a payé pour mes péchés pour que j'ai plus besoin d'y vivre et de m'y soumettre à nouveau, et qui veut me donner cette liberté-là face au péché, et que je réalise qu'il m'a donné une puissance pour témoigner. J'aimerais terminer avec une petite histoire. Je ne sais pas si vous aimez le sport, mais ça vous parlera quand même si vous n'aimez pas. Un jour, il y avait un match qui se passait juste en face de chez moi quand j'habitais à la ville de Caen. C'était un match entre une petite équipe et une grande, comme on voit souvent dans les matchs en Coupe de France, en particulier au football. Et voilà que Quevilly, ils arrivent en demi-finale. Ils rencontrent Rennes, et bien sûr, tout le monde à Quevilly veut aller voir le match, donc ils sont obligés de louer un stade plus grand. Et ils se retrouvent sur le pied de ma porte. Impossible de trouver une place. La seule option, c'est de regarder à la télé. Et voilà que pendant ce match, c'est terrible. On voit une équipe qui se démène, ils se donnent tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont dans la faiblesse. Ils sont tellement de divisions en dessous. Ils ont beau bien jouer au foot, hein. Vous savez, on a l'impression qu'ils sont nuls par rapport aux autres, mais par rapport à nous, ils sont ultra forts. Et voilà que Quevilly se prend un but en première mi-temps. Pff, naze. Nous, on s'attendait à l'exploit, ils allaient aller en finale au Stade de France. Et voilà que non, on est rattrapé par la réalité, l'ordinaire, petite équipe face à la grande, ils ne peuvent rien faire. Et à la mi-temps, chose qui n'arrive pas souvent, on a la caméra en live dans le vestiaire de Quevilly. Et c'était un moment mais extraordinaire. On voit le charisme ici de l'entraîneur. Et il se lève et on voit tous les gars qui sont là, ils sont morts, éclatés. 45 minutes à jouer contre une équipe de professionnels, ah, ils sont fatigués. Et voilà que l'entraîneur leur parle, il commence à leur parler, ils sont tous là, baissés la tête. Et puis d'un seul coup, il a dit, « Oh les gars, levez la tête un peu !» Il se lève la tête et dit, « Les gars, c'est le scénario idéal !» Attends, 1-0 contre Rennes à la mi-temps, on est tous morts, c'est le scénario idéal. Ouais, super. Il dit, « Vous allez voir, le scénario, on rentre, on met un but, ça se retourne à une vitesse, on en met un deuxième, on est au stade de France. » 45e minute. Ok, ils repartent de là un peu, ils se tapent dans les mains, c'est parti. Ils arrivent sur le stade et la belle histoire se produit. 15 minutes plus tard, ils viennent de faire un changement, le joueur arrive, un tir, bim, un partout. Quelques secondes avant la fin du coup de sifflet final, bim, un but. Tout le monde est là. C'est dingue, on vient de voir l'entraîneur dans les vestiaires qui remonte son équipe, qui est complètement raplapla. Et les voilà qui mettent un deuxième but et qui se retrouvent en finale de la Coupe de France. Alors, c'est pas ce que j'essaie de faire ce matin, hein, mais un peu quand même, j'avoue. Je crois que le Saint-Esprit, il veut faire cette œuvre-là dans notre vie. Il veut nous dire, mais levez la tête, regardez à nouveau à ce que Jésus a fait pour vous. Regardez à sa parole, regardez à la promesse du Saint-Esprit et à cette puissance donnée pour le témoignage. On n'a pas à baisser la tête quand on va au travail. Des fois, c'est difficile, mais si on la lève pour nous rappeler que Jésus nous aime, eh ben, les circonstances difficiles de nos vies, on va pouvoir les vivre attachées à une promesse qui est tellement puissante, qui peut nous donner un bonheur et une joie, une paix, un amour, de savoir qu'on peut lui parler au quotidien. On peut entendre Dieu nous parler dans sa parole. On peut recevoir cette paix profonde. On peut connaître Dieu personnellement. Qui est Jésus pour toi ? Repartez avec cette question ce matin. Qui est Jésus pour toi ? Est-ce que cette promesse du Saint-Esprit, tu l'as acceptée dans ta vie ? Parce que quand on accepte Jésus, on accepte sa promesse. Et c'est ça qui fait que notre vie est changée. Jésus vient mettre son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il purifie nos cœurs, il nous asperge d'eau pure, comme on a lu dans ses prophéties faites des siècles avant la venue de Jésus. Et quand il nous transforme, on va même être surpris nous-mêmes de se retrouver en train de témoigner pour Jésus, alors que quelques mois ou années avant, on n'aurait jamais eu l'audace de le faire. Et je prie vraiment ça pour votre vie d'église, que cette année vous encouragiez à placer ces priorités, à placer ces trois priorités pour votre préparation de l'année. De placer Jésus au centre et sa parole, placer la promesse du Saint-Esprit, de cette vie nouvelle en avant, et cette puissance aussi dans votre témoignage. On peut prier ensemble ? Merci notre Père pour ta parole. Merci parce que tu veux vraiment nous parler ce matin. On confesse, Seigneur, que souvent on a la tête baissée. On est dans notre ordinaire. Mais Seigneur, comme ces quelques personnes qui étaient dans cette chambre haute, on veut laisser notre ordinaire être transformé par toi, qui est notre Dieu extraordinaire. Tu peux prendre les situations les plus banales de nos vies, parfois même les souffrances les plus difficiles, et tu peux aussi les utiliser pour nous permettre de te rencontrer. Seigneur, on veut réfléchir à qui tu es, Jésus. Et on te demande pardon quand on t'a caricaturé. On s'est moqué de toi, alors que tu étais justement celui qui est venu donner ta vie pour nous. Et on veut accepter cette vie, on veut accepter cette promesse dans nos cœurs. Et on te prie que tu nous donnes d'aspirer aux choses d'en haut, d'aspirer à une vie nouvelle, et que tu nous donnes aussi le courage de pouvoir témoigner de Jésus, de pouvoir témoigner de ce que tu fais dans nos vies. Et on te prie que beaucoup de personnes cette année à Toulouse puissent découvrir la joie que c'est de suivre Jésus, puissent être surpris de voir qui est vraiment Jésus. Et je te prie vraiment ta bénédiction pour cette Église, que cette année ils soient attachés fermement à ta parole et avec une joie nouvelle d'annoncer l'Évangile autour d'eux. Prie ça dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.